offre n'était pas destinée au ministère pastoral. Voilà, aujourd'hui vous savez pourquoi, et on est content qu'il y ait des micros. C'est bon ou pas? Ça arrive. D'accord. Très bien. Bon, ben je vais essayer de parler comme Spurgeon, je ne sais pas comment il faisait, mais bon. Ce que je vais vous raconter s'est passé quand j'avais à peu près 24 ans. On est en fin d'après-midi, je rentre du travail, il fait beau, je suis bien, tout va bien. Et comme chaque jour, je gare ma voiture sur le petit parking au bout de l'impasse, là où j'habitais, et je parcours la trentaine de mètres qui me séparent de la porte d'entrée de mon immeuble. Et puis là, mon regard est attiré par quelque chose qui se trouve juste à côté de la porte d'entrée, à gauche, par terre. Je regarde d'un peu mieux, et c'est une corde à nœuds qui se trouve là, à l'entrée de chez moi. Et là, je commence à sentir un malaise monter en moi. Je ne me sens pas bien. Je lève le regard, et au premier étage, la fenêtre de ma chambre est ouverte, et je me vois. Je me vois, moi, pendu au milieu de ma chambre. J'ai rien demandé à personne, j'ai pas voulu ça. Ça s'est imposé à moi, un moment où tout allait bien. Ça s'est imposé à moi comme les autres fois. Parce que oui, il y a eu d'autres fois. Il y a eu d'autres fois où des images morbides m'ont assailli comme ça, soudainement, et plongé dans l'angoisse, et parfois sans même avoir besoin d'une corde à nœuds, comme ça, pof, d'un coup. Et je suis terrifié. Je suis terrifié d'abord parce que j'ai l'impression que ma vie m'échappe, et ensuite parce que le message que je reçois là est quand même très clair, c'est assez limpide. Et je désespère. Je désespère parce que comme ça ne vient pas de moi, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de prise là-dessus. Je ne peux rien faire avec ça. Je ne peux rien faire pour m'en défendre. Ça vient tout seul et ça vient de nulle part. Alors en fait, non, bien sûr, ça ne vient pas de nulle part. Si vous êtes dans une situation de ce genre, des images morbides qui vous viennent, une sensation d'oppression, cette impression que votre vie est réduite à son strict minimum parce que vous êtes pétri d'angoisse, il y a des clés de vie à comprendre. Il y a des clés de vie à comprendre. Ça ne résoudra peut-être pas tout, mais c'est une base nécessaire et peut-être suffisante. Peut-être suffisante. Et évidemment, c'est dans notre intérêt de comprendre ces clés de vie pour au moins deux raisons. La première, c'est que quand on est dans ce genre de situation, la peur que ça génère, combinée à l'envie évidemment légitime de sortir de ces angoisses, peut nous faire nous engager dans des voies qui paraissent bonnes à première vue et qui en réalité nous emmènent toujours plus profond, toujours plus loin dans la noirceur. La deuxième raison, c'est qu'être chrétien ne constitue pas en soi une protection contre ce genre d'expérience, parce que la foi, ce n'est pas une amulette, on n'est pas dans la magie ou dans la superstition, la foi, c'est quelque chose à mettre en action. Il y a des chemins qui mènent à la vie, et puis il y a des chemins qui mènent à la mort, et vous avez beau être chrétien, si vous prenez la tangente par des chemins de mort, vous aboutirez exactement là où vos pas vous mènent. Alors si j'ai voulu vous parler de tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'approche tout doucement et qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure qu'on va avancer dans le mois d'octobre. Est-ce que vous savez de quoi je parle? J'entends pas bien? Bon voilà, vous savez de quoi je parle, vous êtes bien informés. On va nourrir trois réflexions autour d'Halloween. Trois réflexions autour d'Halloween. D'abord, Halloween, c'est quoi? Eh bien, vous le savez sans doute quand même, c'est cette fête durant laquelle petits et grands se déguisent en monstres, ou plus particulièrement en sorciers ou sorcières. Ce moment où on décore les maisons avec des citrouilles, des faux squelettes, des toiles d'araignées. C'est aussi ce moment où les enfants sortent frapper à la porte de leurs voisins, dans le meilleur des cas pour leur demander simplement des bonbons, et dans le pire pour les leur demander avec la formule suivante, des bonbons ou un sort. Autrement dit, ou tu me donnes des bonbons, ou je te jette un sort maléfique. Alors évidemment, c'est supposé être bon enfant, on est là pour s'amuser, c'est pas sérieux, et on reviendra là-dessus. Mais on va se poser d'abord la question, d'où vient cette fête ? La première chose que je peux dire à ce sujet, c'est que quand moi j'étais petit, personne ne fêtait Halloween. Je ne sais pas comment c'était quand vous étiez petit, a priori pour la plupart d'entre vous c'était pareil. On ne fêtait pas Halloween, je ne connaissais même pas Halloween, je ne savais pas ce que c'était. C'est une importation finalement relativement récente en France et ce n'est pas trop difficile de deviner pourquoi est-ce qu'on a importé ça. Passé les achats de la rentrée, Mammon, l'idole de l'argent, doit attendre Noël pour voir ses adorateurs défiler aux caisses des supermarchés. Et donc c'est bien commode dans le temple de ce monde d'avoir une fête qui vient combler le trou béant de la consommation entre septembre et décembre. En 2019, aux États-Unis, les 5 plus grandes entreprises de confiserie ont vendu l'équivalent de 55 000 tonnes de sucreries pendant la période d'Halloween. 55 000 tonnes, c'est 55 millions de kilos. 55 millions de kilos. Ça fait un beau chiffre d'affaires et on parle là que des bonbons, on ne parle pas des déguisements, on ne parle pas des décorations. Alors évidemment, quand on a vu ça depuis l'Europe, là, on s'est dit « Oulala, mais ça, il nous faut ça chez nous, vous pensez bien ?» Au-delà de ça, la plupart des sources citent Halloween comme étant un héritage d'une fête religieuse celte qui est apparue il y a environ 2000 ans. C'est une fête qui se célèbre le 31 octobre au soir, parce qu'on est à cette période charnière entre la fin des beaux jours et de la saison des récoltes et le début de l'hiver, une saison froide, aux longues nuits, à l'obscurité prononcée. Et donc dans la tête des Celtes, on est à la croisée de la vie et de la mort. Le 31 octobre, pour eux, constitue une sorte de passerelle entre le royaume des morts et celui des vivants. Ces deux mondes séparés se côtoient, ils se rencontrent. On pourrait dire que c'est la fête de la confusion. Dans la Bible, ces deux royaumes sont nettement séparés, au point que Jésus nous parle d'un gouffre qui sépare les vivants et les morts, un gouffre qu'on ne peut pas traverser, on ne peut pas parler aux morts, les morts ne peuvent pas nous parler. Eh bien, les Celtes considèrent que cette nuit-là, ces deux mondes se rejoignent, se croisent, se rencontrent. Alors maintenant, le nom d'Halloween. Halloween, ça viendrait, alors là, attention, je vais parler anglais, accrochez-vous. Normalement, les anglophones ne me comprennent pas, les Français un peu mieux. Le nom d'Halloween viendrait de la contraction de All Hallows Eve. C'est bien ? Ça se comprend ? Ouais ? D'accord. Je n'étais pas sûr sur la prononciation de Eve ou Eve, je ne sais pas. En tout cas, je vous le traduis, ça veut dire la veille de tous les saints. La veille de tous les saints. Ce qui fait dire à certains, très sérieusement, ce qui m'étonne, que Halloween serait en fait une fête d'origine chrétienne. Ce à quoi d'autres répondent, non, c'est une fête païenne qui a été récupérée par les chrétiens et qui a donné chez nous ce qu'on appelle la Toussaint. Et je me permets de dire au passage que la Toussaint, en fait, n'a rien à voir avec Halloween non plus. Mais de toute façon, peu importe. La question de fond, c'est pas tant celle de l'origine, c'est surtout de savoir où est-ce qu'on met les pieds quand on fête Halloween. Et pour réfléchir à ça, je vous propose d'aborder trois questions qui sont, à mon sens, d'une importance capitale dans notre vie spirituelle, non seulement concernant cette fête-là, mais d'une façon générale. Et la première question, c'est avec quoi tu te nourris ? Avec quoi tu te nourris ? Je vais lire un texte, je vais lire pas mal de textes un peu à droite et à gauche. En vérité, je les ai là. J'ouvre ma Bible pour vous montrer comment j'ouvre ma Bible, mais ils sont écrits là. Si vous voulez m'accompagner, en tout cas, on trouve ça dans Jean 6. Et puis comme ça, comme j'ouvre ma Bible, je sais à peu près combien de temps il vous faut pour me suivre. Jean 6, versets 47 à 51. Puis accessoirement, c'est écrit de plus en plus petit dans ma Bible. C'est un truc... C'était écrit plus gros avant là-dedans. Mais... Jean 6, 47 à 51, qui dit, c'est Jésus qui parle, et qui dit, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. C'est moi qui suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Jésus est le pain de vie. Le thème de la nourriture, c'est un thème central. Au premier siècle, je l'ai déjà partagé ici, parce que je trouve que c'est à la fois étonnant, un peu amusant, anecdotique. Certains soupçonnaient les chrétiens de cannibalisme parce que Jésus avait dit à ses disciples de manger son corps et de boire son sang. Alors évidemment, il faut entendre ça de façon spirituelle. On est appelé à se nourrir du Christ. Ça, c'est une réalité spirituelle. On a été greffé au tronc que constitue le peuple d'Israël comme un rameau à son cep de vigne pour être nourri par le Messie, de la même sève que le tronc. On a été unis à Christ et nous vivons de sa vie. Dans notre quotidien, qu'est-ce que ça peut signifier ? À minima, ça signifie qu'on a la responsabilité de ce que nous laissons pénétrer dans notre âme. On est appelé à faire pénétrer dans notre âme des choses bonnes, des choses saintes, des choses qui nous font du bien, qui nous édifient. Avec quoi est-ce que nous nous nourrissons spirituellement ? Tout ce qui est dans le monde n'est pas mauvais. On peut apprécier un bon repas, on peut avoir des conversations édifiantes avec des non-chrétiens qui nous apprennent des tas de choses sur des thématiques diverses. On peut se délecter d'un bon vin. Il y a plein de belles et bonnes choses dont on peut vraiment profiter, se délecter dans le monde sans péché, bien sûr. Mais dans le monde, tout n'est pas bon. Et le Seigneur a fait de nous un peuple saint, un peuple mis à part pour lui. Dans la finale de l'Épître aux Romains, au chapitre 16, Paul dit à ses destinataires « Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je veux que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Pur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire non mélangé, non mélangé au mal. Vous n'avez aucune part, nous n'avons aucune part avec les ténèbres. Si on veut rester en bonne santé spirituelle, on se tient à distance. Alors évidemment, certains voient dans Halloween une fête anodine, un folklore, c'est un amusement. À ce titre, ça serait spirituellement neutre, pensent-ils. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, je vais vous donner une petite anecdote, mais que je crois significative. Il y a quelques années, une petite voisine qu'on connaissait bien est venue frapper à notre porte un 31 octobre au soir. Et elle s'était déguisée en une espèce de morte vivante, vous savez, tout pâle, les cernes, le sang qui coule, tout ça. Et nos deux petits, quand ils l'ont vue, ils n'ont pas voulu l'approcher. Et ça lui a fait tout drôle, ça l'a étonnée. Elle a dit, pourquoi ils ne veulent pas me faire la bise ? Pourquoi ils ne veulent pas me faire un bisou aujourd'hui ? Et la réponse, c'est parce que tu leur fais peur, en fait. Tu leur fais peur, tu arrives, tu dégoulines de sang, tu es toute pâle, tu fais peur, quoi. Voilà. Alors, c'est anecdotique, mais ça montre quand même que ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre. Si c'était neutre, il ne se passerait rien de particulier. On peut penser que mes enfants sont impressionnables, mais peu importe. Le fait est, en tout cas, que ça n'est pas neutre. Leur âme toute fraîche, qui ne s'est pas encore accoutumée à des scènes d'horreur, a été impactée par ce qu'ils ont vu. C'est pas neutre pour les autres, donc, comme cette petite anecdote le montre, mais c'est pas neutre pour nous non plus. Ce que nous mangeons spirituellement a un impact sur nous-mêmes. Et je tiens à le dire parce que, en fait, j'en avais, moi, absolument pas conscience quand j'étais jeune. Je pensais que les films étaient neutres, que la musique était neutre, que les lectures étaient neutres. Et en vrai, j'étais très naïf. Quand je me suis converti, j'ai compris qu'il y avait un ennemi qui en voulait à mon âme. Alors, la première chose que j'ai faite, une fois que le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en moi, ça a été de me dresser contre cet ennemi à chaque fois qu'il venait m'enquiquiner avec des idées morbides, avec ces idées qui me venaient parfois. Et je le faisais de manière très concrète. Je lui disais, Satan, tu n'as aucune part avec moi, va-t'en, je suis le temple du Saint-Esprit, Jésus t'a vaincu à la croix, et moi j'appartiens à Jésus, tu n'as plus rien à faire ici, tu n'as rien à faire avec moi. et je rendais gloire à Dieu pour cette écrasante victoire à la croix. Eh bien, croyez-le ou non, mais quand Jacques nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous », eh bien, c'est vrai. C'est vrai. C'est en tout cas ce que j'ai expérimenté. Et la deuxième chose que j'ai faite, ça a été d'arrêter de nourrir mes passions tristes. Parce que j'écoutais des musiques de dépressifs, je regardais des films de dépressifs, je me nourrissais d'artistes écorchés vifs qui finissaient ou alcooliques ou drogués, ou les deux. Et jusqu'à ma conversion, je ne faisais pas le lien avec le fait que j'allais pas bien. Je faisais pas le lien. Ce dont on se nourrit n'est pas neutre. Ce dont on se nourrit n'est pas neutre, jamais. Si tu manges McDo tous les jours, tu finis par ressembler à un Big Mac. Alors, je pose la question, à quoi est-ce qu'on finit par ressembler quand on se nourrit de Halloween, de Harry Potter, de l'horoscope, de superstitions à base de médailles miraculeuses ou autres amulettes protectrices, de grand-mère qui veille sur nous là-haut et puis avec qui on discute de temps en temps, mais c'est pas bien méchant parce qu'elle était bien gentille, ma grand-mère, du rebouteux qui coupe le feu par des procédés occultes, de quoi est-ce qu'on se nourrit ? Et oui, je mets tout dans le même sac, sans aucun scrupule, sans nécessité de discerner, parce que tout ça n'est pas spirituellement neutre. Le monde spirituel existe, je crois que nous qui croyons en Dieu, nous le savons. Et bien dans ce monde, il y a des choses qui ne contribuent pas à notre bien et desquelles on fait bien de ne pas s'imprégner. Alors j'ai arrêté de manger n'importe quoi et je me suis tourné vers le beau, le bon, le juste, à commencer par la parole de Dieu. Et ô surprise, quand on fait ça, la vie devient plus lumineuse. Maintenant, deuxième question que nous pose la Bible, peut-être plus surprenante celle-ci. Avec quoi tu t'habilles ? Avec quoi tu t'habilles ? Pareil, hein, on fait le lien avec Halloween, on peut réfléchir à la question de manière générale. Le saviez-vous ? Depuis la chute, c'est Dieu qui nous habille. Ça commence en Genèse 3, verset 21. Il nous est dit ici, « Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. » L'homme et la femme, suite à leur péché, se sont découverts nus et ils en ont eu de la honte. Ils ont eu honte de ça. Pourquoi ? Parce que le péché était intervenu dans leur vie et donc ils avaient des choses à cacher. Et Dieu, dans son amour, ne les a pas laissés comme ça, il les a couverts. Il les a habillés. Et il les a habillés avec des habits de peau, issus donc du sacrifice d'un animal. C'est-à-dire qu'en Genèse 3, juste après la chute, un innocent est mort pour couvrir le péché des coupables. C'est pas beau, ça ? On est en Genèse 3 et on trouve déjà là l'Évangile. Alors évidemment, dans le Nouveau Testament, on trouve un sacrifice beaucoup plus abouti que celui de cette pauvre bête. On trouve le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Or, qu'a fait Jésus à la croix ? Il a porté notre péché, on le dit souvent. Il est mort pour nous, c'est-à-dire à notre place, on le répète aussi souvent. Et c'est tout. Alors, ce serait déjà beaucoup, mais en fait, c'est pas tout. C'est pas tout. Le prophète Ésaïe, au chapitre 61, verset 10, dit « Je trouverai la gaieté dans le Seigneur, je serai plein d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le marié, tel un prêtre, se coiffe d'une parure splendide, comme la mariée s'orne de ses atours. » Si Ésaïe, qui a vécu 8 siècles avant Jésus-Christ, a pu comprendre ça, on peut le comprendre aussi. Par son sacrifice, Jésus nous a revêtus de sa justice. Quand Dieu nous regarde, quand nous sommes en Christ, il voit la justice du Christ. Nous sommes revêtus de la justice du Christ. Galates 3, 27 dit « Vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. » Quand le fils prodigue de la parabole, vous savez, ce fils prodigue qui demande à son père sa part d'héritage et puis qui part ensuite dilapider ça en vivant une mauvaise vie, puis qui termine avec les cochons à manger la nourriture des cochons, quand il revient tout miteux, couvert par la honte de son péché, conscient de ne rien mériter de la part de son père qui l'a trahi et duquel il s'est détourné. Comment est-ce que le père le reçoit ? Son père le voit, il est ému, il court se jeter à son cou, il l'embrasse et il lui dit « Le fils lui dit, pardon, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie et il était perdu. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Il l'habille et il le nourrit. De quoi se nourrit-on et avec quoi s'habille-t-on? Nous sommes revêtus de la plus belle robe, celle de la justice du Christ, celle du pardon immérité, celle de l'amour du Père pour son Fils qui s'était perdu et qui est revenu à la vie. Et ça a des conséquences pour notre vie. Romains 13, versets 12 à 14 dit « La nuit est avancée, le jour s'est approché, rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Comportons-nous convenablement, comme en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans dispute ni passion jalouse, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. » Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous identifions à nos habits. Là, j'ai mis mon costume de pasteur. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est mon costume de pasteur. Je ne suis pas habillé comme ça toute la semaine. Je mets ça, c'est mes habits du dimanche, voilà. Ça a l'air de rien, mais c'est parce que par mon habit, j'investis ce que je suis. Je viens devant vous ce matin comme pasteur, voilà. Or, quand bien même ça n'est que pour jouer, il est quand même bien rare que les petits sorciers et les petites sorcières n'usent pas de la baguette. Parce qu'ils s'identifient à leur personnage. Ils rentrent dans la peau de ce personnage. Par ailleurs, on est aussi identifié par nos habits. Le médecin ne vient pas en bleu de travail, l'avocat ne plaide pas en pyjama, le présentateur télé ne se présente pas en slip. Pourquoi le chrétien viendrait-il en sorcier ? Pourquoi le chrétien viendrait-il en sorcier ? Et finalement, on porte aussi un message par nos habits. Nos habits disent quelque chose de nous. Ils disent quelque chose aux autres, ce qui est déjà digne de considération, mais surtout, ils nous disent quelque chose à nous-mêmes. Ils nous disent quelque chose à nous-mêmes. Je suis toujours surpris quand je vois des parents mettre à leurs enfants des t-shirts avec des messages du type « petit monstre », vous savez, ou « petit diable », vous avez déjà vu ces choses-là ? Ou avec une tête de mort, parce que c'est stylé. Les habits disent quelque chose à nous-mêmes. On s'identifie à ces choses-là, aux messages qu'on transmet. Et il en est de même pour les adultes. Alors, il n'est pas question de parler de tenue chrétienne, hein, tous formatés, pantalon pour les garçons, jupe au-dessous du genou pour les filles. Je ne suis pas du tout en train de parler de ça. Évidemment, il y a de la place pour une grande diversité de styles, de goûts, même de mauvais goûts, vous l'aurez peut-être remarqué. Mais ne vous maudissez pas vous-même. Ne vous maudissez pas vous-même en vous identifiant à des choses qui sont mauvaises, qui sont néfastes. Alors je repose la question, alors que j'ai revêtu Christ, est-ce que je peux en toute cohérence me balader déguisé en sorcier et dire à mes voisins des bonbons ou un sort ? C'est une question rhétorique et je sais que ça fait hyper réac ce que je dis là. Mais je le dis quand même parce que je sais autre chose. Je m'habillais aussi comme un dépressif fumeur de joint, parce que oui, il y a une panoplie du dépressif fumeur de joint, elle existe. En tout cas, moi j'avais la mienne et je m'habillais comme ça. Et devinez quoi, à ma conversion, le Seigneur m'a fait revoir ma garde-robe. Alors je ne sais pas si c'est pour mieux, j'en sais rien, mais il m'a fait revoir ma garde-robe. Et c'est qu'après coup que je me suis rendu compte de ça. C'est étonnant d'ailleurs, je n'ai pas fait ça de manière consciente en me disant « allez, maintenant je change d'habit ». Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais changé d'identité. Et du coup, ce que le miroir me renvoyait ne correspondait plus à ce que j'étais devenu. Et donc, j'ai eu envie de changer. Ça s'est manifesté comme ça. Et effectivement, le Seigneur a changé ma garde-robe. Et ma femme, elle dit de coiffure aussi. C'est vrai. Dernière question pour la route. qu'on va faire courte. La dernière question, c'est avec quoi tu t'associes ? Avec quoi tu t'associes ? Je vais très peu commenter, je vais commenter à peine, mais je vais lire trois passages. Allez, on peut les lire dans notre Bible, ils sont un peu longs. Le premier est dans Lévitique, Lévitique 18. Et je vais lire les versets 9 à 15. Hop. Pas du tout. Ça, c'est étonnant. Ça doit être... Bah alors, bah c'est où ? Non, non, parce que alors, pas du tout. Je devais être fatigué hier. Est-ce que c'est 19, du coup ? Ben non, c'est pas 19. Je l'ai là, hein, c'est très bien, je l'ai là, mais je sais pas. Est-ce que c'est 20 ? Non, non. Mais enfin, mais si, c'est 18, forcément, enfin. Incroyable. Ouais, c'est ça, hein. C'est Deutéronome, oui. Deutéronome 18. C'est bien ça. Merci. Deutéronome 18, exact. Merci beaucoup. Et c'est très fort, hein, parce que je n'ai pas dit quel texte je cherchais, mais il le sait. Il sait que c'est Deutéronome. Très bien. Effectivement, Deutéronome 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Lorsque tu entreras dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la magie, personne qui cherche des présages, personne qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est une abomination pour le Seigneur. C'est à cause de ces abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède ces nations devant toi. Tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. Tu seras pur. Car ces nations que tu dépossèdes écoutent les chercheurs de présages et les devins. Mais à toi, le Seigneur ton Dieu ne t'a rien donné de semblable. Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi, de ton propre sein, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est-à-dire que on nous présente d'un côté la magie, les présages, la divination, la sorcellerie, les sortilèges, le spiritisme, la voyance, le dialogue avec les morts, et de l'autre, on nous dit qu'il y a un prophète comme Moïse à écouter, un nouveau Moïse qui nous fait sortir de l'esclavage du péché, évidemment, c'est Jésus-Christ. Alors, Deutéronome 30, versets 15 à 20, si vous voulez me suivre aussi ici, je vais le lire là, nous dit ceci, « Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Et ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies, d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est la vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Tu veux entrer dans le repos de Dieu, choisis la vie. Choisis la vie. Et le dernier texte que je vous propose, on le trouve en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 14 à 18. Eh bien, je devais être très fatigué, hein, parce que c'est pas ça. Si, c'est ça, c'est bon. C'est bien ça. Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles? En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Aussi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Alors, vous le savez, c'est très connu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ce que ça signifie, c'est que si nous ne sommes pas appelés à rester en vase clos entre nous, on est bien appelé à être dans le monde pour être lumière du monde. On n'est pas appelé à rester bien au chaud entre nous. Il y a aussi des lieux où on fait bien de ne pas mettre les pieds. Il y a des gens et des situations avec qui on fait bien de ne pas s'associer. Alors, je sais dans le même temps qu'il y a, par exemple, des chrétiens qui vont au Hellfest. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'ils y vont en mission. Ça s'appelle comme ça, d'ailleurs, Metal Mission. Ils y vont pour briller là-bas, parce qu'ils savent, précisément parce qu'ils savent tout ça. Ils savent ce que je viens de raconter, et ils veulent apporter là-bas la lumière du Christ auprès de gens qu'ils aiment. C'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas dans cet état d'esprit qu'on s'associe ou qu'on va dans ces lieux-là, alors sans doute mieux vaut ne pas y aller. Si on m'avait dit il y a 20 ans que je ferais un jour une diatribe de ce genre contre Halloween, j'y aurais pas cru. Mais en vrai, j'ai vu trop de gens se perdre pour faire dans la nuance. Je sais que les ténèbres, la sorcellerie, la magie, les devins, les rebouteux, vous pouvez retourner ça dans tous les sens, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. On ne joue pas avec une arme à feu qui est chargée. Nous sommes enfants de Dieu. Le Christ est notre nourriture. Le Christ est notre vêtement. L'oublier trop souvent, trop longtemps, c'est laisser à coup sûr un espace à Satan. Et c'est pas ce que tu veux. Les ténèbres, qu'on se le dise, ça n'est pas un jeu. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous as rachetés, parce que tu nous as rachetés à grand prix et parce que tu nous as arrachés au monde des ténèbres pour nous amener dans ta lumière, Seigneur. Seigneur, je voudrais te prier vraiment de nous donner de prendre conscience de la dimension spirituelle des choses, la dimension spirituelle de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, des lieux où on met les pieds, de nos activités, pour que nous puissions, dans tous les aspects de notre vie, te rendre gloire. Et si nous devons aller dans des lieux ténébreux, que ce soit pour y apporter la lumière, que ce ne soit pas par naïveté, que ce ne soit pas parce qu'on n'a pas compris l'impact, l'influence de ces lieux sur nos propres vies, que ce soit parce qu'on est fort et enraciné en toi et que nous voulons inverser la tendance et apporter la lumière là où les ténèbres ont pris de l'espace. je veux te prier de nous permettre de continuer à réfléchir sur cette question de la nourriture, au-delà de cette fête d'Halloween qui arrive, de ce dont on se nourrit, de ce avec quoi on s'habille, Seigneur. Je te prie pour que chacun ici puisse poursuivre cette réflexion, non seulement vis-à-vis de cette fête qui approche, mais aussi plus largement dans nos propres vies. Aide-nous à voir quel message on communique par nos vêtements. Aide-nous à comprendre ce qu'on se dit à soi-même par ce qu'on porte, par ces étiquettes qu'on se met sur nous-mêmes, parfois en parole et parfois un peu plus qu'en parole, parfois en habit aussi. Aide-nous à comprendre avec quoi on s'identifie, Seigneur, dans les choses de ce monde. Et transforme-nous, viens nous revêtir vraiment, pleinement et complètement, de qui tu es, parce que c'est à ça qu'on aspire. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors je crois qu'il y a un chant après la prédication, n'est-ce pas ? Ou pas ? Non ?